16h34 minutes à Boulevard 102.1. Avant de rejoindre notre invité et de parler de Beluga, vous allez tout comprendre. On va faire un petit arrêt dans la route. On n'a pas le choix. C'est quand même très, très, très au ralenti aujourd'hui. Je préfère faire des suivis plus souvent que pas assez. Peut-être commencer par ce qui se passe dans le coin de Shannon. C'est sur Route de la Bravoure dans les deux directions devant la base militaire. Très, très lourd. Si vous êtes sur Route de Fossambeau, c'est entre Désérable et de la Jacques-Cartier en ce moment que c'est au ralenti. La capitale direction Est, c'est entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, entre Bourg-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, toujours compliqué entre Charest et la capitale. Si vous êtes sur Charest, d'ailleurs, direction Est, c'est entre Duplessis et Henri IV. Surtout léger ralentissement aussi dans le coin de Robert Bourassa. Ouest, c'est surtout dans le coin de... mettons que... Legendre. Legendre, précisément, là, le ralentissement commence pour quand même un bon petit bout. Il ne semble pas y avoir d'incident proprement dit, mais c'est quand même au rouge. Henri IV Sud, c'est de Wilfrid Hamel à l'entrée des ponts. Si vous êtes sur Duplessis Sud, Charest au pont La Porte, sans y avoir des bons ralentissements aussi à prendre en compte sur le pont de Québec en ce moment. Si vous sortez du pont direction sud, des ponts, vous allez chercher la 20, là, sans y avoir un accident en ce moment qui fait que ça ralentit quand même pas mal. Donc, à la hauteur de la 116 des rivières, il y a un bon ralentissement à prévoir. 73, ça s'améliore pas direction nord quand vous allez chercher les ponts à partir de Beaulieu. Toujours super difficile. 20 direction ouest entre Monseigneur Bourget et Taniata. Toujours au rouge. Des problèmes d'ailleurs sur la route du président Kennedy entre Guillaume-Couture et Lavin. Pareil pour ce qui est de chemin des îles entre Guillaume-Couture et Lavin. Là, tu vois qu'il y a des gens qui essaient peut-être de trouver des alternatives, mais ça ne fonctionne pas particulièrement bien.
C'est des pièges.
Oui, c'est vraiment des pièges parce que Guillaume-Couture, dû aux travaux, il y a aussi des zones plus difficiles, entre autres entre Monseigneur Bourget et de la route du président Kennedy et entre chemin des îles et Taniata. Ça, c'est vraiment les grandes artères, puis c'est déjà le bordel. Fait que si vous avez des détails supplémentaires, vous ne vous gênez pas. Au 88 971 1021 texto. Je dis Beluga. Je vous en ai glissé un peu un mot avant la pause. La saga des Belugas de Marin Land qui prendra bientôt fin, en fait, là, parce qu'après plusieurs années j'ai dit niaisage, mais on essaie de trouver des solutions. C'est surtout ça parce que depuis 2024, l'aquarium est fermé au public. Puis on voulait s'en débarrasser des Belugas. Pas de la façon la plus éthique qu'on connaît, mettons.
Moi, je me souviens d'avoir vu des affaires passer, mais il va vraiment falloir qu'on me reparte l'histoire de zéro.
Ben, c'est ça. Et pour repartir l'histoire des Belugas de zéro, on jase avec Elisabeth Crête, qui est journaliste, animatrice, vulgarisatrice d'actualité aussi. Elle jase pas mal de tout, notre Elisabeth. Comment vas-tu?
Salut, ça va bien, vous autres?
Ça va très bien. Là, c'est ça, on est un peu perdus. C'est pas tout le monde qui a suivi la saga, là.
Il y en a qui savent même pas qu'il y a une saga.
Non, c'est ça. Fait que peut-être nous remettre en question, en contexte sur tout ce qui touche les Belugas de Marin Land.
Oui, puis je vais même élargir un petit peu parce que tout ce qui touche Marin Land de façon générale, c'est que de controverses depuis plusieurs années. Ouais. Moi, j'ai suivi ça, là. Je vous dis, j'étais obsédée par cette histoire-là. Je suis la génération Willy la baleine, hein. Fait que des baleines en captivité, là, moi, ça fait très longtemps que je m'intéresse à ça.
Tu sais qu'ils vont refaire le film, hein, d'ailleurs, ça a été annoncé aujourd'hui.
Oui. Ah oui, c'est vrai?
Oui, oui, très sérieuse.
Arrête donc. Pour vrai?
Ben oui, c'est timing.
Hey, c'est malade, ça. Je vais aller voir ça après. Merci de m'informer. Écoute, si on reprend la saga de Marin Land, je vais recommencer. Essentiellement, ce qu'on a appris, c'est qu'on a finalement trouvé une solution pour les 30 belugas qui restent à Marin Land et que les responsables de Marin Land menaçaient d'euthanasier si on trouvait pas une solution rapidement. Et c'est devenu un petit peu le symbole de la sauvetage des animaux en captivité à travers le Canada parce que depuis plusieurs années, Marin Land essaie de s'en débarrasser, faisait tout en fait pour s'en débarrasser de la manière pas la plus éthique possible. Je vais y revenir en détail. Et on a finalement trouvé la solution qui est la meilleure option des moins bonnes solutions. On va dire comme ça, là. La meilleure solution, ça aurait été que ces baleines-là n'aient jamais été capturées puis qu'elles soient dans la nature. Mais dans le contexte, c'était la meilleure solution parmi les solutions qui sont pas top. Là, on va dire comme ça. Mais comment ça a commencé tout ça? Je veux juste vous ramener en 2012 pour vous parler de Phil Demers, qui est entraîneur à ce moment-là à Marin Land depuis 12 ans et qui annonce sa démission et qui dénonce publiquement les mauvais traitements de Marin Land envers ses animaux. Et là, ça explose. Enquête du Toronto Star qui met au jour, en fait, les mauvais traitements de Marin Land, qui dit qu'il ne s'occupe pas de ses animaux, en particulier les baleines, les dauphins, qui vivent dans des eaux qui ne sont pas propres du tout. Et Phil Demers devient un lanceur d'alerte, et ça pendant plusieurs années. En 2013, même un an plus tard, Maryland a poursuivi Phil Demers pour diffamation pour plusieurs millions de dollars. Ça vous donne une idée là, de à quel point ça avait pris des proportions. Et en 2015, le gouvernement ontarien a passé une loi qui interdit la reproduction d'épaulards. À ce moment-là, il reste un seul épaulard à Maryland qui s'appelle Kiska. C'est une femelle. Elle est seule dans son bassin depuis 2011, alors que les épaulards sont des animaux très sociables. Et elle a donné la naissance à plusieurs bébés au fil des années. On lui a arraché ses bébés pour les vendre à d'autres parcs d'attractions. Et Kiska est devenue là, vraiment un symbole de solitude et de mauvais traitement de Maryland. Un an plus tard, en 2016, la SPCA dépose des accusations de cruauté animale contre Maryland. On les abandonne un an plus tard parce qu'on n'a pas les preuves nécessaires pour faire condamner Maryland.
Mais là, tout ce temps-là, le parc est encore ouvert. Il y a encore
oui,
des gens
là,
qui y vont.
Oui, là, il est ouvert au public. Tu peux y aller, effectivement, tu peux y aller. Il y a même des spectacles de baleines. C'est comme un SeaWorld, là, finalement. Pendant tout ce temps-là, je vous dirais que la popularité a commencé à baisser avec les allégations qui sont sorties publiquement, mais techniquement, il y a encore des spectacles de baleines, puis tu peux encore y aller, là. Par contre, en 2019, le Canada a passé une loi qui interdit la capture, l'élevage et les spectacles de baleines. Autrement dit, tu ne peux pas rien faire de divertissement avec les baleines que tu as présentement. Fait que là, il y a pas mal moins d'intérêt pour le public d'aller à Maryland parce que tu vas regarder des baleines dans leur bassin, mais tu ne peux pas interagir avec elles. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas rien. Et Maryland ne peut pas les reproduire ni en acquérir d'autres. Fait que ça signe un peu l'arrêt de mort de Maryland. Tu sais qu'à un moment donné, ces baleines-là vont mourir, puis ton parc n'aura plus aucune raison d'être. Et là, les problèmes financiers commencent à arriver pour Maryland. En 2023, là, le parc est toujours ouvert au public, mais Kiska, l'épaulard, la seule qui reste, meurt à 40 ans. Puis pour vous donner une idée, là, une femelle épaulard, ça peut vivre jusqu'à 100 ans d'habitude.
Hey,
elle est morte à 40 ans. Plusieurs disent qu'elle est morte de solitude et de mauvais traitement, parce que ça faisait plus de 10 ans qu'elle était seule. Et pour un épaulard, de vivre seule, c'est de la torture mentale, là, tout simplement. Et son histoire a été hyper médiatisée à Kiska. Les Canadiens se sont mobilisés pour la sauver, pour trouver une option pour elle, mais finalement, ça n'a jamais abouti. 2024, c'est là que Maryland a officiellement fermé ses portes au public. Ils ont de graves problèmes financiers à ce moment-là et ils commencent à se débarrasser tranquillement de leurs animaux. Mais il reste plusieurs belugas et ça coûte 2 millions de dollars par mois pour entretenir les belugas. Et là, Maryland dit, on n'a plus une scène, on n'est plus capable de s'en occuper. Et à l'automne dernier, ils lancent un cri du cœur public et ils disent au gouvernement canadien, si vous ne nous donnez pas de l'argent pour qu'on puisse continuer de s'occuper des belugas, on les euthanasie.
Ça, c'est pas un cri du cœur, c'est carrément des menaces.
Ben oui, ah oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, depuis 2019, je vous souligne qu'il y a 20 belugas qui sont morts au parc.
Oh.
C'est énorme.
Puis il en reste 30,
quoi? Là, il en reste 30 à ce jour. Sont morts de quoi? Comment? Plusieurs spéculations à ce niveau-là. Là, je vous laisse le soin d'imaginer. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le compte Instagram Urgencies. Ça, c'est le compte Instagram que Phil Demers a créé. Puis eux autres, ils ont pu suivre l'état de santé des baleines parce qu'ils envoyaient des drones filmés au-dessus du parc d'attractions.
Ouais.
Et vous allez voir le bassin, les bassins dans lesquels vivaient les belugas et surtout les polars Kiska. Écoute, c'est à brailler, c'est pas compliqué, là. Kiska, elle avait une mini-piscine de rien qui est sale et dégueulasse au bout. Elle bougeait pas. Elle passait des heures entières immobile sans jamais bouger. Elle faisait même pas de rond, là. Elle était immobile totalement, là. C'est d'être une tristesse incroyable et les belugas vivaient dans des conditions tout aussi dégueulasses. Et là, donc, à l'automne dernier, un an, finalement, là, ils ont dit au gouvernement canadien, vous nous donnez de l'argent, sinon on les euthanasie. Le gouvernement a dit non, c'est votre responsabilité de vous occuper des baleines. En attendant que vous nous présentiez un plan d'action clair et éthique, on vous aidera pas, c'est pas vrai. Et là, Maryland, pour vous donner une idée d'à quel point ils peuvent être un petit peu... Le plan qu'ils ont proposé, c'est on va les envoyer en Chine. Mais en Chine, il n'y a aucune loi qui protège les animaux. Les baleines auraient été reproduites encore là-bas pour la reproduction. Il aurait été fait l'objet de spectacles de baleines. Et le gouvernement canadien a dit, on peut pas avoir passé une loi qui protège ces animaux-là puis les envoyer dans un pays qui vont les maltraiter puis qui vont faire exactement ce sur pourquoi on les a protégés.
Très conséquent. C'est ça, on est conséquent, là.
Voilà. Et la Chine aurait payé très, très cher pour avoir les baleines parce que quand tu peux les reproduire ou faire des spectacles avec elles, ben, ils valent encore quelque chose. Mais tous les parcs qui ont des conditions éthiques à respecter puis qui disent, nous, on n'en fait pas de spectacle de baleines puis on les reproduise pas. Eux, pourquoi ils paieraient de l'argent pour acheter des baleines, finalement? On va juste perdre de l'argent. Pourquoi on paierait pour acheter des baleines avec lesquelles on peut plus rien faire?
Mais pourquoi ça a pris autant de temps? T'as peut-être pas la réponse, mais je me dis, qu'est-ce qui a bloqué le dossier pendant des années? T'sais, il a fallu qu'on attende que la baleine meure en 2023, que des images sortent, tu sais, je me dis, c'est 10 ans.
Maryland voulait pas. En fait, Maryland n'avait pas vraiment l'objectif de se débarrasser des baleines avant de comprendre qu'il n'y avait plus une scène à faire avec elle. comprends? Ouais. Avant de s'apercevoir que vraiment c'était plus rentable d'avoir des baleines comme ça, parce que tu peux pas les reproduire, tu peux pas les vendre, puis tu peux pas faire de spectacle, là, ils ont dit, OK, on a plus d'argent, puis il faut dire que le fondateur de Maryland est mort entre-temps, là, c'est sa succession qui s'occupait du parc, et là, ils ont dit, parfait, on va les vendre, on va au moins récupérer un peu d'argent, mais ils voulaient les vendre à la Chine, parce que les seuls parcs qui allaient payer pour les baleines, c'était les parcs qui pouvaient faire de l'argent sur le dos des baleines. Oui, fait que tous les parcs éthiques dans le monde, eux autres, ils disaient, donnez-nous-les, on va les accueillir, puis on va leur offrir une fin de vie digne de ce nom, mais on va pas payer pour ces baleines-là, ça vaut plus rien, tu sais. Alors là, Maryland a dit, on les envoie en Chine. Le gouvernement a dit, non, vous les envoyez pas en Chine, on vous donne pas les permis pour ça. Et là, ça a été très long avant de trouver des parcs d'attractions aux États-Unis qui étaient prêts à les prendre de manière humanitaire. Ça veut dire, on paye pas pour les baleines, mais on va respecter les conditions dans lesquelles vous voulez qu'ils soient. Et là, il y a eu des discussions avec le gouvernement canadien. Le gouvernement canadien disait, nous, on est contre la reproduction et on est contre le fait de faire des spectacles. Est-ce que vous êtes prêts à respecter ça? Et les parcs, aux États-Unis, il n'y a pas de loi en tant que telle, comme au Canada, qui va protéger les baleines contre ça, mais chaque parc a des codes d'éthique individuels, et on a donc choisi des parcs qui allaient respecter les conditions que nous, on voulait avoir, finalement. Et là, il y a 4 parcs, entre autres, qui ont été sélectionnés pour les 30 belugas. Comment ils vont être départis là, dans chaque parc, ça, c'est pas clair, mais ce qu'on a su hier, c'est que finalement, les derniers permis ont été délivrés pour pouvoir transférer les belugas dans ces différents parcs d'attractions-là. Alors, évidemment, Maryland ne va pas faire d'argent là, avec les baleines. Et nous, ça nous assure qu'au moins, ils vont avoir une fin de vie qui va être beaucoup mieux que ce qu'elles ont présentement. Parce que je vous dis, allez voir le compte Instagram, vous allez capoter de voir les conditions
ouais,
dans lesquelles les baleines
sont. On a vu un peu les images, là. Ça choque un peu. Là. Drôle de question, encore une fois, mais pourquoi on ne peut juste pas les remettre en liberté? C'est-tu parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont en captivité que ça...
Qu'ils n'ont pas de réflexe.
Ouais. Ouais.
Bien ça, c'est une bonne question. Puis j'ai dans toute cette saga-là depuis plusieurs années, les grands défenseurs des animaux disent ça, leur mettez-les en liberté. Mais il faut savoir que la plupart des bélugas et des baleines sont nés en captivité. Mmh. Ils n'ont jamais su c'était quoi habiter dans la nature. Ils ne savent pas chasser. Ils ne savent pas comment se débrouiller en nature.
Avoir un prédateur après eux autres.
Non, puis je veux juste vous ramener à l'histoire de Willy la baleine, finalement. Vous savez que la baleine qui a joué Willy, elle s'appelait Kaiko. Et c'est une baleine un épaulard qui avait été capturée justement pour vivre dans un parc d'attractions. Finalement, ils l'ont pris pour jouer dans un film. Et à la suite des films de Willy, il y a eu tellement de pression populaire pour la remettre en liberté qu'ils ont fini par le faire. Pendant plusieurs mois, plusieurs années, ils l'ont entraîné à chasser. Ils ont essayé de la désensibiliser un peu là, au monde domestique pour la remettre à l'état sauvage. Ils ont trouvé un endroit où la libérer, où il y aurait d'autres épaulards dans l'espoir qu'elle puisse joindre une tribu puis qu'elle puisse vraiment vivre sa vie d'épaulard en nature. Et ça n'a pas fonctionné. Kaiko, elle est morte pas longtemps après avoir été libérée. Elle n'a jamais été capable d'intégrer un groupe d'épaulards. Elle n'a jamais été capable de se nourrir par elle-même.
Mais non, c'est tragique. Vraiment...
Mais voyons, oui, c'est un film d'horreur.
Je t'émotive, il y a ça.
Non, c'est super triste, l'histoire de Kaiko. C'est le plus triste là-dedans. Elle a toujours recherché le contact humain. Elle cherchait à se rapprocher du bord. Elle cherchait à s'approcher des bateaux.
Voyons, Olivier, j'ai le goût de brailler. Je fais le pas.
Je sais. C'est vraiment triste, mais c'est pour ça qu'on peut pas remettre des animaux qui ont été domestiqués en liberté, parce qu'ils sauront pas comment se débrouiller dans la nature. La meilleure solution, là, celle qui a pas été réalisée malheureusement, mais la meilleure solution, ça aurait été de créer un sanctuaire naturel, c'est-à-dire que tu prends un bout d'océan là et tu te l'appropries. Tu le fais à un très, très gros périmètre, là, énorme. Là. Fait que t'es dans la nature, finalement, mais dans un périmètre précis.
Contrôlé.
Et tu leur donnes les services minimums pour s'assurer qu'ils survivent, tout en leur permettant d'être dans un véritable habitat. Donc, c'est un sanctuaire naturel qui appelle. Mais ça, faut que tu le construises, par exemple. Faut que tu aies assez d'employés pour le faire vivre. Faut que tu sois capable de le financer aussi, parce que qui paie pour ça? Mais ça aurait été la meilleure solution.
Bon, là, moi, j'ai une obsession là, sur Willy. Là, si on refait le film, Véro, on prend pas une autre baleine.
J'ose
là.
Penser que non. Là.
On va faire ça par ordinateur.
J'espère
là.
Que oui. T'as
pour
coup,
ça,
je
me demande, justement. Ouais.
Honnêtement, je me pose la question. Là. Je me dis, on peut pas reproduire la tragédie une deuxième fois. Avant non. De te laisser, Elisabeth, comment on... Peut-être que tu n'as pas la réponse encore une fois, mais les questions me pop. Là. Comment on transfère un beluga par avion?
Écoute, c'est une excellente question. Avez-vous déjà vu dans le film Willy, là, vous souvenez-vous de l'espèce de harnais là, qu'il soulève, baleine
oui.
De l'eau? Bon. Essentiellement, c'est comme ça que évidemment, elles sont endormies, les baleines, elles ne sont pas vivantes pendant tout ça, mais essentiellement, c'est comme ça que tu vas l'enlever du bassin en tant que tel. Après ça, tu vas t'assurer que la baleine demeure humide tout le long du transport, où elle est anesthésiée, là, pendant ce temps-là, elle n'est vraiment pas vivante, mais il faut qu'elle reste humide tout le long du transport. Tu peux pas tu peux pas vraiment voyager plusieurs baleines dans un seul transport. Là, fait là, il y en a 30 à déplacer. Vous allez comprendre que ça va être beaucoup, beaucoup de transport. Mais ça se fait par avion. Des avions qui sont faits pour ça, qui ont des mini bassins d'eau pour pouvoir la mettre dedans. Tu vas la soulever, tu vas l'amener là. C'est hyper complexe, là, mais c'est surtout très long quand on a plusieurs à transporter comme ça. Alors, c'est des opérations qui sont pas du tout simples. C'est accompagné d'experts vétérinaires là, en créatures aquatiques là, comme ça, qui vont les suivre du début à la fin, qui vont s'assurer de leur bien-être, qui vont redonner de la médication si nécessaire, qui vont les s'assurer qu'elles sont humides du début à la fin. Alors, c'est pas un mince processus, pas du tout, là, transporter des baleines.
Et Elisabeth, si ça peut te rassurer, Antonine est allée fouiller très rapidement. Ce sera des images de synthèse qui seront utilisées pour créer les couleurs pour le remake. Et c'est les frères Russo qui vont être en charge de la production. Et c'est eux qui sont, entre autres, derrière des grands films de Marvel. Puis eux autres, les animations par ordinateur bien faites, ils connaissent ça. Fait que ça devrait bien aller. Fait qu'aucun épaulard ne sera capturé ou utilisé pour ces prochains tournages-là.
Mais c'est-tu la même histoire? C'est ça encore Jesse, là, qui est comme le petit gars qui devient ami avec la baleine?
Hey, la nouvelle est sortie aujourd'hui. J'ai très peu de détails.
Je vais aller voir.
Je vais te l'envoyer.
On s'en reparlera. Hey, Elisabeth, c'était super intéressant. Tragique, mais super intéressant.
Oui.
Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Puis on se rejase la semaine prochaine.
Certainement. Salut.
Bye. Salut.
Bye.
Hey, j'ai de la peine.
C'est vraiment tragique.
Hey, pour vrai, le pire, c'est qu'ils ont pris le temps d'entraîner. Moi, ça reste Willy, là, mais ils ont pris le temps d'entraîner Willy pour essayer de pouvoir la remettre en nature, puis elle s'est fait rejeter par les autres épaulards.
Oui. Ça marche pas comme ça. On peut pas utiliser les animaux à notre bon vouloir. Tu sais, c'est un peu, je m'excuse de faire des parallèles comme ça, mais les gens qui décident de se mettre à nourrir des animaux sauvages...
Oui.
Tu veux bien faire.
Mais t'aides pas pantoute.
T'aides pas. T'sais, laissons la nature. Puis honnêtement, au-delà de Willy, pour revenir un peu à Marineland, honnêtement, quand les documentaires se sont mis à sortir il y a quelques années, puis qu'on s'est mis à avoir des images de ces parcs-là, là, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais quand j'étais jeune, je voulais y aller. Là. Tu décroches, là. Tu dis, ces bêtes-là sont vraiment pas faites pour vivre dans des piscines avec des filtreurs, de pas pouvoir vivre en groupe comme c'est censé être dans la nature. C'est vraiment, vraiment triste. Puis on se posait la question si ça allait être le même synopsis pour Willy, mais c'est encore en phase d'écriture.
Oui, exact. Et on a juste donné le feu vert à une production, mais on est très, très tôt dans les développements.
Fait qu'à suivre. Hey, je suis vraiment shaky, je vous dis. Là.
Ça fait 20 ans qu'elle est morte, là.
Mais non, mais
la Madame Épaulard.
Je comprends, mais c'est beaucoup d'histoires de rejet, tout ça. Là, puis de, ça me rappelle mon enfance.
C'est mon secondaire.
C'est comme Willy un peu.
Colline, mettez-moi pas en état sauvage. 88-971-1021, s'il y a quoi que ce soit, on revient dans les prochaines minutes. Ça sent la broue parce que ça approche le week-end. Vous êtes à Boulevard.
Le retour de